chanteront le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère, 88.4 à Marseille et sur Internet sur le site de la radio. Très heureux de retrouver Sidi aussi pour une nouvelle folle soirée. Bonsoir. Du mercredi soir qu'on poursuit ensemble depuis une paire d'années, j'allais dire. Et puis très heureux aussi d'accueillir notre hôte de ce soir, qui est un hôte par téléphone. Mais vous allez voir qu'il a énormément à nous dire, puisqu'il s'agit d'un personnage et d'un ami qu'on a déjà reçu à l'antenne, qui s'appelle Gilles Devers, qui est avocat de son État et qui a cette particularité de s'être spécialisé dans le droit international, spécialité qui l'a amené à être un des tout premiers, si ce n'est un des tout premiers, il va nous le préciser, à entamer une poursuite à la demande de l'autorité palestinienne contre l'État d'Israël pour ce qui va nous expliquer les violations permanentes du droit international consécutives à la création de l'État d'Israël et à toutes ses pratiques jusqu'à ce jour. Donc on attend avec beaucoup d'intérêt Gilles Devers qui nous va nous parler d'un livre qui vient de consacrer à cette histoire du droit, de la force, des rapports entre la violence, le droit international au sujet de la Palestine, pour montrer qu'effectivement aujourd'hui, grâce à lui et grâce aux Palestiniens qui ont fini par accepter d'aller devant les juridictions internationales pour faire avancer leurs droits, pour se faire respecter, on est en train de tourner une page dans l'histoire de la Palestine, c'est-à-dire qu'à nouveau, la Palestine peut se montrer fière vis-à-vis de la communauté des nations en disant « nous sommes légitimes, nous avons le droit pour nous, respectez-nous ». Et ça s'adresse bien entendu à tout le monde, mais en particulier aux colonisateurs. Voilà, on écoute Gilles Devers, il est en ligne.
Bonsoir, oui, c'est avec vous.
Merci, merci Gilles. Bon, on t'écoute, donc tu vas nous parler de ton nouveau livre qui, je crois, est arrivé, donc il va être en librairie dans quelques jours, et qui est un gros travail que tu vas nous décrire.
Ben, très bien, on peut commencer par le livre.
Oui.
Donc, il est arrivé hier.
Oui.
Et c'est un travail, le livre, le titre, c'est « Jérusalem Est sous la protection du droit international ». Un guide pour comprendre l'avancée de la procédure devant la Cour pénale internationale, donc devant la, on appelle la CPI.
Oui.
Et c'est publié chez un éditeur qui est très très sympathique, qui fait beaucoup de choses, s'appelle Éric Bonnier. Le livre, on parle de beaucoup de choses, vu qu'on ne comprend pas la Palestine sans l'inscrire dans l'histoire.
Bien
Moi,
sûr.
Je suis un avocat, donc je parle de droit, mais le droit, il faut l'inscrire dans les faits. Et donc... ça fait un livre assez copieux, vu qu'on est sur 580 pages. Donc, c'est ce qu'on appelle un pavé, voilà.
Voilà.
Mais j'espère alors, que ce sera lisible,
oui,
en tout
cas,
et rédigé pour être lisible par le plus grand nombre.
Tout à fait. J'en témoigne parce que je ne l'ai survolé que pendant ce week-end, mais je peux dire que c'est lisible. Et effectivement, ce qu'il faut souligner, que ce n'est pas un ouvrage. Tu es avocat, il s'agit donc de procédures entamées devant des juridictions internationales, mais il s'agit aussi de situer ce pays dans l'histoire du droit et dans l'histoire générale, au moins du XXe siècle, même un peu plus dans l'histoire de notre monde tel qu'il est, avec une espèce... Avant ce livre, je vais te dire ce que je parle, il y avait une espèce de résignation en disant, au fond, là-bas, Israël a toujours raison parce qu'Israël est le plus fort matériellement, militairement. Bon. Et en fait, ce que tu apportes, c'est une espèce de retournement, un basculement du regard. C'est-à-dire, en fait, il y a un État envahisseur, il y a un État colonisateur. Et avant, il y a un État, une population qui ont le droit international pour eux. Et ils n'ont pas à avoir honte de ne pas revendiquer ce droit. Ils ont le droit, au vu et à la face, j'allais dire, urbi et orbi. Et c'est ça que tu es en train de faire. Et on t'en remercie.
Mais disons, bon, je fais mon travail, mais on fait rien si un avocat il fait rien s'il n'y a pas des matière.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et le fil conducteur de tout ça, c'est pour ça que le livre il démarre en 1850 pour aller à 2022. C'est un peuple. Vu que s'il y a un peuple, le droit a des choses à dire. S'il n'y a pas de peuple, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est pas du tout les mêmes choses.
Bien sûr.
Et il faut donc montrer que le peuple palestinien, il existait. Donc c'est pour ça qu'il y a cette antériorité à 1850, quand l'Empire ottoman commence à se fissurer. Et qu'il y a tout un développement historique, mais complètement inscrit dans les faits, hein, vu que quand on dit le problème de la Palestine, d'ailleurs c'est marquant, c'est que on dit que l'histoire factuelle ou l'histoire juridique, pour moi, elles sont très proches, c'est pratiquement les mêmes.
Mais oui.
Parce que quand vous avez une recommandation de l'ONU, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est un fait politique dont tout le monde parle? Mais c'est aussi un acte juridique. Et quand on crée l'UNRWA qui ne prend pas en compte le statut de réfugié, c'est de la réalité politique, mais il y a également une structure juridique. Donc en fait, il ne faut pas donner le sentiment que c'est du juridisme froid. C'est une pratique du droit qui est très, très vivante et qui a comme fil conducteur de dire que quand un peuple, est-ce qu'un peuple existe? Oui, il existe, on le démontre, il existait. La Palestine a été reconnue comme État entre 1920 et 1948. Hein, c'est comme ça là. Maintenant, ça paraît, quand on dit ça, on a presque l'impression qu'on injurie le monde, mais c'est la réalité juridique.
Et, voilà.
Et puis, quand il y a un peuple, le peuple ne disparaît pas. Et actuellement, les Palestiniens sont bien dans les difficultés, vu que le leadership politique de l'autorité palestinienne est au minimum, on va dire, compliqué.
Mm-hmm.
Mais par contre, ce que tout le monde voit, c'est que le peuple palestinien, il est là, il est intact. Ça fait 10 millions de personnes entre les gens qui habitent Cisjordanie, les gens qui habitent Jérusalem, les gens qui habitent Gaza, les gens qui habitent dans les camps de réfugiés dans le monde arabe, la diaspora qui est beaucoup plus lointaine, et à chacun, si vous leur demandez qu'est-ce qu'il est, il va vous dire je suis palestinien. Voilà, donc ça s'invente pas un peuple. Et comment est-ce que le peuple peut rencontrer l'outil du droit? On a un peu de temps pour en parler, et j'ai fait ce livre de 600 pages, mais je dis simplement pour bien poser le décor que la base fonctionnelle du livre, c'est un arrêt de la Cour pénale internationale du 5 février 2021, donc il a un peu plus d'un an.
C'est tout frais.
Voilà, et cet arrêt de la Cour, donc c'est pas une discussion, c'est pas un livre d'un avocat, c'est l'arrêt de la Cour, dit que la Palestine est un État au sens du traité de la CPI, oui d'accord, mais il y a déjà 120 États qui ont signé, donc ça fait beaucoup de monde, donc la Palestine est un État, et avec une compétence qui est liée à la souveraineté sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. Donc maintenant, les gens, ils peuvent être d'accord ou pas d'accord. Ils peuvent dire, je prends l'exemple, je ne les prends pas, je dis n'importe quoi, je gèle les fonds du procureur. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais en attendant, ça s'est jugé.
Exactement. Voilà. Il y a donc un sujet de droit et puis plusieurs millions de sujets concrets à l'intérieur de ce sujet de droit. Il y a dans ton livre un chiffre que je donne, je ne donne pas à l'unité près, mais il y a aujourd'hui 7 millions de réfugiés palestiniens. C'est pour donner l'ampleur.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le livre, chacun le qu'il feuillette, j'ai déjà eu des commentaires là-dessus,
oui.
Est un peu impressionné par le caractère documentaire. Bon, mais ça, c'est normal. Un avocat, il traite des faits,
bien sûr.
Mais les faits ne sont pas de son registre. Donc, il faut toujours citer la source, si possible plusieurs sources. Et chaque fois qu'on peut, on cite le document lui-même. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu de volume. Les chiffres, l'évolution des chiffres, c'est toujours renvoyé soit au document de l'ONU, pour ce qui est de la colonisation, donc des implantations israéliennes dans le territoire palestinien. Je cite les chiffres qui sont d'un côté des chiffres d'autorité palestinienne, de l'autre côté les chiffres qui sont publiés par Israël lui-même.
Mm-hmm.
Donc un avocat, il doit travailler sur l'idée qu'il y a un débat, il y a une discussion, il y a un affrontement sur les points de différend, mais il doit faire un travail de chercheur, d'historien, de précision sur les faits, de ne pas y avoir de discussion sur les faits. Donc j'attends qu'on me démontre un fait qui est avancé, qui est faux.
Oui, je pense qu'ils auront de la peine. Ils auront de la peine, si ce n'est la mauvaise foi. Mais voilà, ça, on connaît. Oui, ce qui explique que toute la première partie du livre, c'est une histoire juridique du conflit Israël-Palestine. Hein, pour expliquer cette antériorité de l'État palestinien, et puis pourquoi il a réussi, enfin, on a réussi, les Israéliens ont réussi à faire croire qu'il n'existait pas, et il existe, et c'est reconnu aujourd'hui par la Cour pénale internationale.
Bah, il y a un grand blackout entre 48 et puis juridiquement. Hein,
oui,
juridiquement.
Oui, tout à fait.
Juridiquement, encore une fois, moi je suis sur mon registre là, puis je dis, je parle juridiquement parce que la procédure elle est en cours à la CPI. Je suis avocat mandaté par de très nombreuses victimes qui habitent Gaza essentiellement. Mm-hmm. Et donc on fait un travail concret quoi, là-dessus. Hein, mais effectivement, il y a un pont. Entre 1948 et l'arrêt du 5 février 2021. La Palestine est un État avec un peuple souverain sur le territoire. Et notre effort dans ce travail de rédaction, vu que les premières démarches auprès de la CPI datent de, simplement de 2009, il y a eu 12 ans pour y arriver. Bon, mais on n'a pas eu que des aides, il n'y a pas eu que des bienveillances. Mais ce travail, il est fait, et ben, le résultat, il est là. Mais dès le début, j'étais sur la démonstration qu'il n'y a pas à se poser la question, est-ce qu'il y a un territoire, est-ce qu'il y a un peuple ? C'est une réalité historique, et il fallait la démontrer par rapport à des données qui sont essentielles. Mais je dis bien essentielles au sens de la nature profonde. Donc, les années passent, le vent souffle, la mer se déchaîne, les événements sont fracassants, mais il reste cette réalité qu'il y avait un peuple sur un territoire. Qu'en 1921, la Société des Nations, qui était donc le prédécesseur de l'ONU, avec une grosse différence, c'est que les États-Unis n'en faisaient pas partie de la Société des Nations, parce qu'ils trouvaient que la Société des Nations était trop colonisatrice, voilà. Et que c'était un club où il y avait effectivement, c'est le club des empires. Bon,
bien sûr.
Et c'est ainsi, en attendant... C'est avec eux qu'il fallait faire, et il y a des réalités qui s'imposent. Donc la notion qu'il y avait en 1922 un peuple souverain sur son territoire, elle est actée non pas par les activistes de l'époque, mais par la Société des Nations, et notamment par un célèbre arbitrage que j'ai repris dans le livre, qui est un des éléments de la discussion, mais c'est le premier juridiquement aussi fort, après il y en aura 50 derrière, c'est qu'auparavant, tous ces territoires, tous ces peuples étaient regroupés dans l'immense empire ottoman. Et on sait que les Turcs voulaient un grand empire, mais ils étaient en fait peu colonisateurs. Et du moment que ça avançait, ils n'ont pas nivelé les peuples, ils ont respecté beaucoup de choses.
Oui.
Et oui, c'est sûr.
Ils voulaient des allégeances plus que des dominations, c'est ça ?
Ah, mais c'était pas du tout la colonisation comme la France l'a fait en Algérie.
Non, pas du tout.
Ça n'a absolument rien à voir. C'est un peuple, il est là, d'accord, mais vous fonctionnez avec moi, puis je vous fiche la paix. Enfin, en gros, c'était quand même cela. Et ensuite, bon, ils voulaient garder le contrôle sur tous les territoires. Donc, il y avait évidemment des phases difficiles, mais faut pas tout confondre. Et quand l'Empire ottoman a fait, pendant la Première Guerre mondiale, le mauvais choix des alliances, donc en s'alliant avec l'Allemagne, donc au bout d'un moment, il s'est retrouvé dans le camp des perdants, il a perdu, Et la nouvelle Turquie, celle que l'on connaît maintenant, est un fruit de cette défaite historique. C'est pour ça que les lecteurs, ils peuvent être surpris de voir qu'on remonte à 1850, qu'on remonte à 1921. Mais ça s'est fait à ce moment-là. Ça s'est fait à ce moment-là. Il ne s'est rien fait d'important ensuite, hein, attention. Hein.
Non.
Et non. Le plus important, ça s'est fait à ce moment-là. Et donc, quand l'Empire ottoman s'effondre, il reste une Turquie qui est sur le territoire actuel de la Turquie, et ce nouveau gouvernement turc dit, écoutez, tout ça c'est bien gentil, mais moi j'ai un problème, c'est la dette de l'État, et je veux bien payer la dette qui correspond au nouveau territoire de la Turquie, mais on avait un territoire qui était 10 fois plus grand auparavant, et je ne vais pas payer la dette pour des États qui maintenant sont tous séparés, distincts et qui ont leur propre vie. Voilà. Alors le principe est accepté par la Société des Nations qui réunit autour de la table tous les États qui sont concernés. Il y a la Bulgarie, il y a la Grèce, il y a la Jordanie, il y a ceci, bon, il y a 7 ou 8. Et il y a la Palestine. La Palestine, et dans l'arbitrage, il est dit clairement, noir sur blanc, que la Palestine est un État comme les autres.
Tout à fait.
Et les Palestiniens, d'ailleurs, ils ont essayé de négocier en disant nous c'est compliqué parce que c'était pas le pays seul l'État sous mandat, mais ils ont essayé de négocier en disant on va pas payer les honoraires de l'arbitre, on va pas payer les frais du procès. Mmh. Comme les États, vu qu'il y avait également la Bulgarie, il y avait la Grèce qui étaient des États de plein exercice.
Bien sûr.
Et l'arbitre répond dans ses décisions en disant mais vous êtes un État comme les autres. Donc pourquoi vous payerez moins? Bon. Et donc évidemment, cette décision de 1922, elle consacre une réalité juridique qui était également dans le mandat et qu'on a trouvé, il y avait un système. En Palestine, il y avait un système juridique qui existait complet, avec une cour de cassation, avec toutes ces lois, avec des territoires, les frontières extérieures qui n'ont jamais été contestées. Alors, c'est bien un point qui n'a pas été contesté, c'est celui-là. Toujours su exactement où ça passait, que ce soit vis-à-vis du Liban, vis-à-vis de la Jordanie, vis-à-vis de l'Égypte, il n'y a jamais eu le moindre doute sur le tracé des frontières extérieures. Et sur cet État souverain, il y avait tout ce qu'on voulait comme organisation. Et donc, je cite un certain nombre de décisions de justice que j'ai retrouvées, mais il y en a beaucoup qui sont citées, mais qui ne sont pas toutes reproduites, parce qu'on peut faire un livre rien que là-dessus. Mais c'est tout à fait important, parce que on démontre qu'à l'époque, devant les tribunaux, dès qu'il y avait un problème, personne ne discutait l'État de Palestine. Et on a même un cas qui est tout à fait intéressant parce qu'il est jugé en 1939, donc plutôt sur la fin du mandat. Et c'est un jeune homme qui est à Londres et qui a un peu fait des histoires avec des stupéfiants. Bon, donc le gouvernement britannique s'apprête à l'expulser. Bon. Mmh. Et lui, sa défense est de dire, moi, je suis de Palestine. La Palestine, elle est sous mandat britannique. Et un État ne peut pas expulser ses propres nationaux. Donc ça, c'est une règle universelle. La France, elle ne peut pas expulser un Français. L'Italie ne peut pas expulser un Italien. Donc lui dit, moi, je suis né sous le mandat. C'est votre administration, c'est vous. Donc vous ne pouvez pas m'expulser. Et la Chambre des Lords, donc la Cour suprême britannique, répond en 1939, attendez, nous, on est juste administrateurs. Donc on n'a aucune souveraineté. Vous êtes un sujet palestinien. Et donc le fait que je sois administrateur ne change rien à la souveraineté, et donc le Royaume-Uni est tout à fait en capacité de vous expulser parce que vous avez la nationalité palestinienne et que vous n'êtes jamais devenu un sujet britannique et que vous ne le deviendrez jamais. Ils ont expulsé le type. Et ça, c'est 1939.
Oui.
Et ensuite, on se réveille 10 ans plus tard, ça y est, tout a disparu.
Voilà.
C'est passé où ?
Voilà. Pour revenir à la question du mandat, pour bien expliquer aux auditeurs français, la majorité, c'est-à-dire qu'il y avait deux territoires sous mandat, la Syrie au nord, mandat français, et la Palestine plus au sud, mandat britannique, et que dans le cas de la Syrie et de sa subdivision, le Liban, ça n'a jamais posé problème. C'est-à-dire la Syrie est devenue souveraine, indépendante en 1945, et tout ça, ça a été considéré comme normal. Et pour la Palestine, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Voilà. Alors oui, j'expliquais, je le redis tranquillement parce qu'on a été coupé dans notre discussion avec Gilles Devers, que la Société des Nations dont il parlait donc avait mis deux territoires sous mandat. Alors le principe du mandat, c'était de dire il s'agit d'États, mais qui sont... Alors c'était un peu comme un rapport paternel, c'est encore un jeune État, donc on a quelqu'un qui le suit dans ses premiers pas et puis qui devra, ça fait partie de la tâche du mandataire, le transformer en État souverain et indépendant. Ce qui s'est passé pour la Syrie. Voilà. Tu nous entends, Gilles ? On a des coupures, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, ça, il y a un problème. Bon. Donc oui, là, cette idée donc, du double mandat, Syrie d'un côté et Palestine de l'autre, avec deux destins complètement différents, puisque dès 1945, la Syrie sera reconnue, adhérera à l'ONU, il n'y aura aucun problème. Et puis, il y a le côté palestinien où ça ne se passera pas du tout de la même façon, pour des raisons historiques sur lesquelles, je pense, Gilles va revenir. Mais on essaye de rétablir la communication. Donc son livre, je le donne pendant qu'il est pas là, son livre s'appelle donc « Jérusalem Est sous la protection du droit international » et les sous-titrés « Un guide pour comprendre l'avancée de la procédure devant la Cour pénale internationale ». Puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce procès qui, en fait, a été accepté. Il y a une plainte qui a été formulée par toute une série de victimes de la colonisation israélienne, qui sont palestiniens, et la Cour pénale internationale a accepté d'ouvrir le procès, donc de juger les responsables israéliens de ces faits. Alors, est-ce qu'on entend Gilles maintenant ?
Oui.
Ça y est, bon. Voilà, on a été un petit peu coupé, donc j'ai redonné le titre de ton livre, et puis je me suis arrêté sur la question des deux mandats très différents dans leur trajectoire. Le mandat sur la Syrie, qui a fait déboucher la Syrie sur un État indépendant dont la souveraineté n'a jamais été contestée. Et puis côté Palestine, exactement l'inverse.
Alors il y a toute une légende pour dire que c'est l'ONU qui a créé l'État d'Israël.
Venons-y.
Non, ça ne peut pas tenir deux minutes cette histoire, parce que encore une fois, c'est un avocat, donc on lit les textes. Le seul texte de l'ONU dont on parle toujours, 47, c'est une résolution. C'est une recommandation.
Exactement.
Donc je recommande. Donc c'est pas une décision, c'est pas une délibération, c'est même pas une résolution, c'est simplement une recommandation. Et pourquoi c'est qu'une recommandation ? Parce que c'est une règle de droit, mais de bon sens aussi. On peut donner, tu ne peux donner que ce qui t'appartient.
Exactement. Exactement. Et l'ONU n'a pas le droit de créer un État.
L'ONU, il ne peut rien donner parce que la souveraineté, elle appartient pas à l'ONU. Hein.
Bien sûr.
Donc, il ne peut rien donner, l'ONU. Donc, il peut donner une table ou une chaise qui lui appartenait peut-être, mais c'est tout. Et donc, c'est juste une recommandation. Mais ça, c'est important. Ensuite, quand on lit la recommandation, et là, j'en donne de nombreux extraits, parce que vraiment, c'est notre histoire de ce jour, et c'est comme ça qu'on a convaincu les juges en 2021.
Et oui.
C'est que la recommandation dit, dès que le mandat britannique prend fin, on a deux États.
Voilà, exactement.
Que eux, ils étaient sur la logique de créer l'État d'Israël, ça, on a compris. Mm-hmm. Mais dans la recommandation, ça ne pose aucun problème. Et c'est écrit noir sur blanc en disant, du moment que le mandat britannique prend fin, ça y est, deux États, il y a un État arabe, c'est l'État palestinien, il y a l'État d'Israël. Donc, est-ce que l'État d'Israël pouvait se créer ou non comme cela ? Ça, c'est un débat. En tout cas, l'État d'Israël, il est là, il était reconnu, et donc le débat, je pense qu'il est largement clos depuis 50 ans, 60 ans dessus. Mais en revanche, il n'y a absolument aucun doute pour dire que dès que le mandat prend fin, il y aura un État palestinien. C'est écrit noir sur blanc. Et il y a même une donnée qui est plus forte et qu'on avait mis dans le mémoire devant la Cour pénale internationale, c'est que l'État d'Israël se déclare. Voilà, donc les Britanniques s'en vont en 48 et le jour même, en octobre, donc les dirigeants israéliens autour de Ben Gurion font la déclaration de création de l'État d'Israël. Bon. Encore une fois, moi je suis avocat, donc tu as créé un État, admettons. Bon, ok, ça marche, c'est une réalité. Mais cet État, il a un territoire. Il a le lendemain besoin d'avoir du courrier postal qui arrive. Il a besoin qu'un avion puisse décoller. Oui. Il a besoin de faire un échange bancaire. Il a besoin qu'une personne qui arrive à la frontière, on le fait passer ou pas passer. Donc, immédiatement, le nouvel État, il est assailli par le fait qu'il a signé aucun traité avec personne.
Exactement.
Et donc, ça va bloquer. Et pourquoi ça n'a pas bloqué? Parce que, là aussi, je cite les déclarations. Parce que Israël, le nouvel État d'Israël en 48, a dit « Je suis l'État continuateur des traités qui avaient été signés par l'État de Palestine ».
Voilà, tout à fait. Donc, une usurpation.
Donc, sur mon territoire, pour la poste, pour les échanges financiers, pour ceci, pour cela, je prends la suite des accords qui ont été signés. J'ai même pas besoin d'aller re-signer parce que c'est un régime de continuation d'État.
Mmh.
Hein? Donc, la Israël créée écrit noir sur blanc, elle revendique à l'ONU qu'il est continuateur sur son territoire des accords qui ont été signés par la Palestine et qu'il n'a pas besoin de les renégocier puisqu'il en bénéficie directement. Donc, comment vous pouvez dire que maintenant, on est en 2022, que vous avez bénéficié de la continuité d'État avec un État qui n'existait pas?
Exactement, alors que cet État existait.
Ben, c'est eux qui le disent, autrement ils ne disent pas continuité, autrement ils se disent, ben, il faut que je négocie un accord autonome pour ceci, pour cela. Et on a même le cas que j'ai retrouvé aussi d'un monsieur qui, quelque temps avant la déclaration d'indépendance, avait commis des violences sur son épouse, était morte dans ses affaires graves,
mm-hmm.
et il était détenu. Bon. Et lui, il dit, maintenant, il faut me libérer parce qu'il n'y a plus de loi qui s'applique. Vu que vous êtes l'État d'Israël depuis 2 mois, auparavant, c'était l'État de Palestine qui m'avait mis en prison avec ses juges. Mais moi, je n'ai pas commis d'infraction à la loi de l'État d'Israël. Vu qu'au moment où j'ai commis le fait...
Vous n'existiez pas.
Vous n'existiez pas. Et la Cour suprême répond en disant, non, mais il y a une continuité juridique. On fait la continuité juridique de l'État de Palestine, jugée par la Cour suprême.
Ah, ouais.
Et donc, ils ont jugé le type et ils lui ont mis les peines de prison qu'il méritait. Alors, on peut continuer comme cela, mais il faut bien voir que on se trompe vraiment d'analyse en disant... Comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un peuple palestinien, premièrement? Est-ce qu'il a un territoire? Comment il peut se faire reconnaître comme État? Alors qu'en fait, il est État à l'origine de tout, mm-hmm. et État dont Israël a tiré ses droits. Voilà. Donc, ça, c'est la démonstration juridique. Eh bien, ma foi, les gens, après, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais la démonstration juridique, elle est absolument certaine.
Et donc il n'y a pas de disparition de l'État palestinien, contrairement à ce que Israël voudrait faire croire.
C'est ça. Mais non, mais ça n'existe pas, voilà. L'État palestinien. L'État de Palestine, ça a été d'abord un État sous mandat.
Voilà.
Ensuite, c'est un État sous occupation militaire.
Oui, exact.
Voilà, mais sous occupation militaire ne fait pas disparaître la souveraineté.
Non, tout à fait.
Et ou alors, on est dans les guerres de conquête, mais d'après ce que j'ai compris de l'actualité, il n'y a plus beaucoup, il n'y a personne qui le soutient. Donc, le fait que la Palestine soit un État actuellement, il s'est discuté par personne. La seule discussion qui reste, et on entretient toujours une confusion là-dessus, c'est est-ce que c'est un État membre de l'ONU? Bon, pour être membre de l'ONU, il faut un feu vert du Conseil de sécurité, donc
voilà.
Déjà c'est mort, vu que les États-Unis donneront toujours le veto.
Mm-hmm.
Et ensuite, il faudrait un vote de l'Assemblée qui serait acquis, vu qu'à l'Assemblée, il y a maintenant 140 ouais. États, enfin une grosse majorité qui a des relations diplomatiques avec l'État de Palestine. Mais ça aussi, ça faisait partie de notre discussion devant la Cour, c'est que il y a une différence entre un État, c'est-à-dire une réalité d'un peuple, d'un territoire et d'une certaine organisation du pouvoir, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir ici, là ou ailleurs, et le fait que cet État ait pu devenir membre de l'ONU. Mais
oui.
État et État membre de l'ONU sont deux choses distinctes. Et si vous n'êtes pas membre de l'ONU, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus un État.
Tout à fait.
Donc c'est ce qu'a jugé la Cour pénale internationale. Et le résultat est imparable. Ce qui est dommage, évidemment, c'est que cet arrêt reste méconnue et qu'on a encore toutes sortes de gens qui professent le matin, midi et soir qu'il n'y a pas d'État palestinien parce qu'il n'y a pas de territoire, qu'il n'y a pas de peuple, qu'il n'y a pas de ceci, qu'il n'y a pas de cela, qu'il n'y a rien du tout. Que, bon, bref, bah, écoutez, ma foi, si la Cour pénale internationale est la juridiction la plus puissante du monde, et l'arrêt qu'elle a rendu est parfaitement motivé, il fait référence à d'autres décisions juridiques, notamment l'avis rendu par la Cour internationale de justice sur le mur, c'était juste un avis, là c'est un arrêt, et d'autres décisions de justice, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne sur la notion de territoire distinct et séparé, de 50 000 références pour dire que l'occupation militaire ne permet jamais d'acquérir le territoire, il n'y a que le peuple d'origine qui peut vous le céder, et que dans le cadre de Palestine, tous les territoires palestiniens sont restés palestiniens. Alors la Cour, elle dit, comme la Cour de justice de l'Union européenne l'avait déjà dit, elle dit, moi je statue en l'état du droit. L'état du droit, c'est que la ligne d'armistice de 1967 est considérée comme, en fait, de 48 et maintenue jusqu'à 67. Elle est considérée par l'ONU comme au début c'est un cessez-le-feu et c'est devenu la ligne entre les territoires israéliens et les territoires palestiniens. Donc je dis, mais si la ligne elle change, bah, vous la ferez changer, mais en attendant on fixe la ligne comme cela, d'où le fait que effectivement en 48 il n'y avait aucun problème sur Jérusalem-Est qui était palestinien, Gaza qui était palestinien et la Cisjordanie qui était palestinien. Et cette réalité d'aujourd'hui, hein, 2021, bon, je dirais, elle est tellement forte que qu'est-ce qu'on a vu lors du procès? Tout ça, c'est des actes publics. Encore une fois, je cite tout, je donne des références, il y a les liens Internet, il y a ceci. Il y a eu, je crois, la procureure voulait un vaste débat sur le sujet, donc chacun pouvait coopérer, les États pouvaient également y envoyer des mémoires. Je crois qu'il y a eu une cinquantaine de contributions, et sur la cinquantaine de contributions, il y en a bien les trois quarts qui étaient contre la Palestine. Ben, ils ont perdu. Donc quand tu fais un procès, ben, c'est gagné ou c'est perdu. Il n'y a pas de doute. Voilà. Donc ils ont perdu, la minorité a gagné et elle a gagné de manière exemplaire. Eh bien, ensuite, il y avait une possibilité de faire appel. La victoire, elle est tellement claire. Et le raisonnement juridique qui consiste à dire qu'il y a cette réalité de l'État palestinien, parce qu'il y a un peuple sur son territoire inscrit dans l'histoire, reconnu en 1921 et encore en 1947 dans cette fameuse plus toutes les réalités, il n'y a personne qui a fait appel.
D'accord, il n'y a même pas eu appel.
Il n'y a même pas d'appel. On pensait quand même qu'il y en a un qui tenterait sa chance en appel. Mais il y a notamment un magnifique mémoire là, qui avait été déposé par Badinter et puis toute une équipe de juristes internationaux et qui sont venus dire qu'il n'y avait pas de peuple palestinien, que la Cour faisait de la politique, que c'est un joli mémoire, hein, c'est très, très très beau, hein, mais c'est de la Cour, hein, tout le monde peut le lire. Ben, ils se sont fracassés, rentrés dans le mur, ça ne les empêche pas de continuer à pérorer, ben, ils ont perdu, ils n'ont pas fait appel, voilà la réalité.
C'est bien que tu cites le nom de M. Badinter, qui a une image positive pour les raisons qu'on sait dans la République française, mais qui par ailleurs sur cette question-là a été partisan d'un bout à l'autre. Et donc ça le prouve, ce que tu dis le prouve.
Ah ben écoute, moi je constate qu'il est à la tête d'un mémoire et que le mémoire est pour dire que premièrement le peuple palestinien n'existe pas et deuxièmement qu'on demande à la Cour de faire de la politique comme si elle était l'ONU et qu'il ne peut y avoir de solution que dans le cadre de négociations directes entre Israël et la Palestine. C'est-à-dire qu'il reprend sous sa signature, je m'excuse, une dizaine de profs, il reprend exactement l'argumentaire de Netanyahou, la virgule près.
Tout à fait.
Vu que pour eux, donc ça aussi, ça fait partie du livre, je suis allé chercher deux documents qui sont... un avocat aime bien savoir l'argumentaire de la partie adverse, on est déjà détendu, non ?
Bien sûr.
Et donc on va voir l'argumentaire, parce qu'on progresse toujours en étudiant ce que dit l'adversaire, et c'est le contradicteur. Et donc, il y a un avis du gouvernement israélien qui date de 67 ou de 68, donc juste après la prise de contrôle de tout le territoire palestinien. Et il y en a un autre qui date de 2011, fin 2020, pardon, quand la procureure allait saisir la cour pour avoir le débat sur s'il y a un État ou il n'y a pas un État. Le procureur d'Israël, manifestement bien informé, a fait un long mémorandum qui est disponible en anglais. Je donne le lien pour le texte anglais, je donne le lien pour le texte français, vu que la traduction, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le gouvernement israélien. Et donc, j'ai les argumentaires fondamentaux.
Tout à fait. Oui, très bien.
Ben oui, comme ça, au moins, on sait exactement quelle est la thèse. Et toute l'histoire, elle est de dire que donc là, on a oublié qu'on était État venant en continuation, qu'on a récupéré les accords internationaux qui avaient été signés par la Palestine. Ouais, tout ça disparaît par pertes et profits. C'est oublié et on focalise sur 67. Voilà, et on dit en 67, on a été agressé par les Arabes, il a bien fallu qu'on se défende. Donc je reviens également sur 67, pour Jérusalem, c'est là le tournant. Et donc il a bien fallu qu'on se défende, alors on n'avait pas d'autre solution que de prendre le territoire pour se protéger. Et ce territoire, on ne sait pas ce que c'était, parce qu'il y avait des toutes sortes de gens, il n'y avait pas de structure politique, le statut n'était pas défini, donc on a tout pris, voilà, c'est comme cela. Mais par contre, nous sommes des gens très civilisés, et vu que l'histoire... du fait de ces événements, de cette agression arabe insupportable, on a été obligé de se défendre et qu'on a récupéré tout, il n'y a que nous maintenant qui sommes en mesure de restituer des choses aux Palestiniens. Voilà, et c'est ce qui nous amène à l'horreur de Camp David, comment Arafat a pu signer ça. Je donne là encore les accords de Camp David, c'est invraisemblable. C'est cité, c'est tous les textes sont donnés. Et donc tout le jeu israélien et états-unien et de dire Israël a tout, mais Israël ne veut pas tout garder. Par contre, si vous voulez quelque chose, il n'y a que Israël qui peut vous le transférer. Donc le litige, il n'est pas de droit international. C'est pour ça qu'ils sont devenus très, très remués quand la Cour pénale se prononce en disant non, pas du tout, c'est un litige de droit international. Le peuple palestinien, il a ses droits propres et il existe parce qu'il existe, il n'existe pas parce qu'Israël a décidé que. Donc ça c'est un peu juridique, alors ça peut moins passer, mais c'est absolument essentiel. Tout le layaus du mémoire de Badinter, donc de Netanyahou, est de dire c'est nous qui avons tout pour des raisons historiques compliquées, ceci, c'est pas la peine d'y revenir, de toute façon c'est nous qui avons tout, premièrement. Deuxièmement, on comprend bien qu'on est des démocrates, donc on comprend bien que les Arabes ils veulent des trucs à eux, mais comme on a tout, il n'y a que nous qui pouvons vous le transférer. Donc en fait, je peux vous transférer même la souveraineté de ceci, de cela, mais dès que vous mettez un tiers dans la discussion, c'est perdu. Parce que ça serait comme un salarié et son patron. Tu veux une augmentation, tu demandes à ton patron, tu ne demandes pas au voisin et de t'accorder des droits. Et donc, nous, toute la démonstration qu'on fait, c'est que cette prétention d'enfermer les Palestiniens dans une discussion directe avec Israël, dans un traité, une négociation bilatérale, parce que les Palestiniens pourraient simplement récupérer progressivement des droits que, par gentillesse, Israël voudrait bien leur concéder. C'est une théorie juridique que je décapite. Elle n'a absolument aucun contenu. Le peuple palestinien n'existe par lui-même. Et encore une fois, c'est toute la première partie. On met même pour Jérusalem aussi la deuxième partie, où on démontre que la réalité est un peuple sur sa terre qui existait, qui existera toujours, et qui a des droits propres, qui ne dépendent pas du tout du feu vert, de l'accord, du consentement israélien. Voilà.
Oui, on en est à la situation, c'est incroyable de résumer comme ça, mais je vous ai tout pris et si vous êtes très très sage, je vous en rendrai un tout petit peu. C'est presque ça, les négociations type Camp David ou Oslo.
C'est de dire, moi je voulais pas vous le prendre, mais les circonstances sont comme
ça. On
cela,
fait que
des problèmes
oui.
de sécurité. Et puis vous étiez organisé, inorganisé, donc j'ai rien compris comment ça marchait votre truc. Mais le procureur. Donc c'était le ce que je développe, c'était le point de vue du gouvernement expliqué en 67. Et en 2022, le procureur général Mandelbit, qui était en fonction il y a encore quelques mois, et qui avait été pendant très longtemps le conseiller de Netanyahou quand il dirigeait, puis après il est devenu procureur, puis ils se sont un peu opposés, Mais il fait un mémoire, c'est intéressant à lire, parce qu'on voit un vrai travail de recherche, beaucoup de... lui, il comprend bien que pour être crédible, il faut revenir à la base. Et on ne peut pas dire on va partir en 67, il faut partir à la base. Et, oui. Et ce qu'il écrit noir sur blanc dans ce mémoire, que chacun peut lire, hein, vu que je donne des extraits, mais je donne le texte lui-même. Mm-hmm. Il dit en fait le mandat de Balfour dit on va créer un État, un foyer national juif en Palestine. Foyer national juif, c'est une expression, et dans toute l'histoire, on ne le rencontre que là, hein, parce que...
Ça n'a pas état, de consistance ça, juridique, ça, ouais, foyer
national. En fait, ça c'est un problème de connaissance, c'est-à-dire que moi je ne suis pas médecin, mais si tu me dis le cubitus, ça, je sais que c'est un autre.
voilà, c'est ça.
Bon. Donc,
foyer national,
le foyer, ben, cherche le foyer, oui, il y a des foyers socio-éducatifs, il y a le foyer comme le foyer familial, il y a des foyers nationaux, non, il n'y a aucune... est-ce que le point de vue juridique, c'est nous, on est des gens basiques, c'est soit il y a un texte, soit de la jurisprudence.
Bien
donc, est-ce qu'il y a un texte pour définir foyer national, premièrement? Deuxièmement, est-ce qu'il y a de la jurisprudence internationale solide, détaillée, pour définir ce foyer? Non, donc ça n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'était l'ambiguïté des choses. Mais lui, il dit, voilà, foyer national juif en Palestine. Donc, il dit en toutes lettres... Hein,
il reconnaît que c'est en Palestine.
Oui, non, mais surtout, il dit que... il n'y a pas de limite, vu qu'on a dit on va faire un foyer national en Palestine. Et vu qu'il n'y a pas de limite, eh ben, le foyer national, c'était toute la Palestine.
Mm-hmm. C'est ça. Oui.
Et voilà. Et donc, lui, il fixe l'origine de cette souveraineté israélienne, telle qu'il l'a décrit, au fait que foyer national en Palestine, vu qu'on n'a pas limité dans le mandat la frontière dans laquelle il y aurait ce foyer national, ben, foyer national en Palestine ne peut être que foyer national voilà, global. Et c'est donc uniquement par concession qu'ils ont laissé un peu de terre aux Arabes, alors que la déclaration de Balfour leur donnait tout, mais foyer national n'existait pas. Ce raisonnement selon lequel ils auraient tous, c'est contraire à tout ce qu'a dit l'ONU, même ce qu'a dit le Conseil de sécurité, et l'existence de leurs écrits même d'époque où ils disaient on prend la suite en continuité de l'État de Palestine. C'est un argument dont on fait vite le tour et il consacre, enfin il montre pourquoi l'approche juridique elle est très forte, vu que l'approche juridique elle est intraitable sur cette question, un peuple sur son territoire.
Alors, pour en finir avec Balfour, quelle est la valeur juridique d'une déclaration, c'est-à-dire d'une lettre d'un ministre à un monsieur qui n'a pas de pouvoir, sauf d'être une association ça, c'est pas un point d'appui juridique, une déclaration de ce type-là.
Non, bien sûr qu'elle était secrète en plus.
En plus, oui.
Non, c'est pas... C'est un acte politique, mais après, alors, elle est devenue plus juridique parce que c'est eux qui rédigeaient, donc les Britanniques l'ont inclus dans le mandat. Le mandat est rédigé par l'ONU, donc c'est plus la Société des Nations,
d'accord.
Mais ça reste encore le club des puissances impérialistes, parce que l'ONU ne va vraiment changer qu'à partir de 60-62, avec le mouvement de décolonisation, où il y a nombre d'États qui viennent, donc ils sont dans l'Assemblée Générale, ils ne sont pas au Conseil de sécurité. Mais malgré tout, ça rééquilibre et on reconnaît l'indépendance, etc., etc. Le mouvement de décolonisation est complètement consacré. Donc en 49, c'est encore, 48-49, c'est encore le club, et le club a introduit la déclaration dans le mandat, donc à ce moment-là, ça devient une donnée juridique.
D'accord.
Mais c'est une donnée juridique, ça c'est sûr, c'est dans le mandat, je ne vais pas dire l'inverse, ça c'est écrit dans le livre. Mais il n'empêche que cette donnée juridique, ben, elle est bien mal définie, vu que foyer national,
ça
on ne sait
pas,
et que tous les événements et documents d'époque, et là, ce qui a été la pratique même, et les déclarations des dirigeants israéliens à l'ONU, sur le fait qu'ils étaient en continuité d'État, sur la partie qu'ils s'étaient donnée, accaparée, agrandie, montre que c'était à l'époque qu'ils n'avaient pas du tout cette prétention de dire que le foyer national était toute la Palestine. Ça, c'est une explication qui est venue 90 ans plus tard.
Beaucoup plus tard. Tu es dans le livre, puisqu'on en parlait de l'ONU, assez, même très critique sur le travail de l'ONU tout le long de l'histoire palestino-israélienne. Tu peux nous donner quelques approches là-dessus ? Tu as parlé de l'UNRWA tout à l'heure, c'est peut-être là-dessus qu'il faut se concentrer, parce que la question des réfugiés est centrale. Ouais.
En fait, il y a... Non, je vais déjà démarrer par la recommandation.
Oui.
Parce que, bon, dans la recommandation, il y a des événements et des données qui nous intéressent, vu qu'effectivement, il est dit qu'à la fin du mandat, il y a un État arabe, oui, et il y aura un État juif. Voilà. Donc, celui qui n'existait pas, qui était en discussion, c'était l'État juif, mais l'État arabe, ça, c'est sûr qu'il était bien là. Bon, donc... Ça, c'est quelque chose qui intéresse dans la recommandation. Mais dans la recommandation, il y a déjà le sang versé des Palestiniens. Parce oui, que j'ai donné tous les chiffres, et encore une fois, à partir de références indiscutables, et c'est-à-dire les chiffres qui viennent du mandataire, qui sont disponibles sur le site de l'ONU. À l'époque, au début du mandat, les Juifs sont très peu nombreux en Israël, sur le territoire global de la Palestine, c'est moins de 10%. Et il va y avoir sous le mandat une politique d'immigration extrêmement forte, qui sera amplifiée par la persécution des Juifs en Europe. Quand on étudie cela, on voit d'ailleurs que cette arrivée massive de population a créé des troubles sociaux, vu qu'il y a eu, entre 36 et 39, un mouvement de grève pratiquement insurrectionnel en Palestine. Les Britanniques ont dû faire intervenir l'aviation pour bombarder les Palestiniens. Enfin, tellement c'était vraiment pas idyllique, hein. C'était archi compliqué, mais bref, parce que 400 000 personnes qui arrivent, ça change complètement une société. Bref, là, tous les événements historiques sont ici et personne ne peut contester le mouvement de rébellion palestinien des années 36 à 39. Voilà. Mais en bout de course, avec le maximum qui pouvait être fait pour l'immigration, eh bien, le déficit restait. C'est-à-dire que sur la Palestine, la population arabe restait majoritaire. Donc au début, il y avait essentiellement des Arabes, mais il y avait que des Arabes, plus quelques Juifs. Mais il y avait, en termes de religion, il y avait Juifs, minorité, chrétiens, minorité, et une grosse majorité très dominante musulmane. Mm-hmm. Ensuite, avec l'immigration, il y avait un tiers à peu près juifs, les chrétiens pas beaucoup nombreux parce qu'ils n'avaient pas beaucoup bougé, et les Palestiniens qui étaient le même nombre, mais du fait de l'augmentation, ils avaient baissé, je crois qu'ils devaient être à 60%. Bon, la question qui se pose est très claire, c'est que le principe de base d'Israël, c'est la création d'un État juif.
Ouais.
Bon, deuxième question, pourquoi créer un État juif s'il n'a pas la majorité juive?
Ouais.
Donc le transfert massif de population, il est dans la recommandation de 1947. Mmh. C'est pour ça que l'ONU, elle a du sang sur les mains dès le départ. Mmh. Alors ils avaient fait une espèce de découpage assez invraisemblable de village en village, de poche d'habitation en poche d'habitation, pour que sur la zone qu'ils promettaient pour Israël, ils arrivaient à trouver une zone où la population juive était concentrée, et donc on avait 52%. Et ben voilà, vous voulez un État juif, vous aurez 52% et 48% d'Arabes. Dans les 52%, vous serez majoritaire. Mais le territoire était jugé beaucoup trop exigu par les dirigeants israéliens, et surtout ils voulaient une marge de manœuvre, parce que 48-52, ça dure combien de temps?
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Donc, il faut vraiment insister auprès de tout le monde pour dire que l'ONU est co-responsable de la Nakba.
Tout à fait.
La Nakba, c'est une décision alors complètement planifiée. Hein, là encore, j'ai retrouvé les plans, les ceci, les divers trucs. Bon, et comment ça s'est passé, les chiffrages, tout ça, il n'y a aucune discussion. D'ailleurs, la Nakba a commencé 6 mois avant le vote de l'ONU.
Vote de l'ONU,
hein.
L'ONU, oui.
Et il s'est poursuivi 6 mois après, ça s'est pas fait en 3 jours, hein. Donc tout le monde était au courant, et bref. Mais pourquoi est-ce que tout le monde laissait faire? Parce que tout le monde, en fait, c'était des puissances occidentales qui disaient, bon, ben, nous, on va quand même pas mettre les mains dans des transferts massifs de population, mais il faut être réaliste. Si on crée l'État d'Israël, il faut qu'il ait une majorité juive très nette. Autrement, ça ne marchera jamais. Donc, la première responsabilité écrasante de l'ONU, c'est d'avoir entériné un partage d'un territoire où la population juive, même dopée par l'immigration, restait très minoritaire, c'est-à-dire qu'elle promouvait un État qui n'était viable que s'il y avait une épuration ethnique massive, vu que le projet n'était pas du tout de faire un État comme cela, mais un État juif. Bon, voilà. Donc ça, c'est une responsabilité qui est terrifiante. Et on peut prendre tous les Lascars qui dirigeaient à l'époque, ben, c'est pas joyeux. Ensuite, l'ONU a eu un tour de passe-passe. L'ONU, faudrait dire la caste qui dirigeait l'ONU, mais elle était toute présente là-bas. Pourquoi ? Parce que le peuple palestinien existait et l'État palestinien était reconnu par les tribunaux. Et l'ONU elle-même, dans la résolution de 47, disait le lendemain du départ du mandataire, automatiquement, il y aura l'État palestinien. Bon. Et qu'est-ce qu'on regarde ? L'État palestinien a disparu. Oui. Donc, en fait, il y a eu... Ah oui, c'est là qu'il y a un tour de passe-passe qui est absolument dramatique. Et donc, la Nakba, elle est factuelle, ça c'est juridique. Il y a eu un accord passé avec les Jordaniens. Donc Jordanie, maintenant, c'est un État qu'on connaît, mais à l'époque, c'était quand même assez fragile, même s'ils avaient eu aussi un mandat et qu'ils sont arrivés à l'indépendance, il y avait un jeune roi de Jordanie, et le deal, ça a été, tu prends toute la Cisjordanie. Et donc, il agrandissait le territoire de la Jordanie, et donc toute la partie qui était restée arabe, c'est-à-dire non touchée par la Nakba, devenait jordanienne, et lui, immédiatement, il a réuni des chefs féodaux palestiniens, non représentatifs de rien du tout, tous corrompus jusque-là. Il les a réunis à Jéricho, donc le plus loin possible de Jérusalem. Il leur a fait prêter allégeance, et donc il dit, ben voilà, maintenant j'ai la souveraineté palestinienne parce qu'il y a eu cette déclaration de Jéricho. Donc, ce qui était la grosse part de l'État palestinien, prévu en 47, disparaît et devient jordanien. Hop. Donc on leur donne la nationalité à tous, et il n'y a plus aucune nationalité palestinienne de ce côté. De l'autre côté, il y avait une petite proportion d'Arabes qui étaient restés dans le territoire israélien, nouveau territoire israélien. Automatiquement, ils ont la nationalité israélienne. Donc il n'y a plus un seul Palestinien. Voilà, donc le tour de passe-passe, il est là. Et ensuite, il reste la question des personnes déplacées, qui allaient devenir les réfugiés.
Les réfugiés, oui.
Et ici, la manœuvre, on a tous les chiffres, hein, parce que l'ONU, elle était présente sur place, elle était là. C'est-à-dire qu'on sait, c'est arrêté à l'unité près, le nombre de personnes qui sont concernées toujours. Depuis le premier jour, le nombre de réfugiés, il est tenu par vraiment des équipes formidables et qui tiennent. On sait exactement ce qui s'est passé. On ne dit pas il y avait 200 000, non, il y en avait 700, je ne sais pas combien. Il y a un chiffre exact qui est donné, de recensé dès le début. Et cela, il faut leur donner un statut. Donc, on crée le statut d'UNRWA, donc spécial Palestine, statut UNRWA, qui, avec un acte international, une déclaration, qui donne à l'UNRWA compétence uniquement pour le social, le sanitaire et l'éducatif. Donc, aucune représentation politique, même aucune représentation du tout. Et représentation politique, c'est pas faire de la politique avec l'UNRWA, mais il n'y a aucune représentation, c'est un service de distribution d'aide géré par l'ONU. Oui. Donc le peuple, à ce moment-là, il a disparu, vu que ceux qui sont restés en Israël, ils sont devenus israéliens, ceux qui étaient restés en Cisjordanie, ils ne sont plus palestiniens, ils sont devenus jordaniens, Et les réfugiés, eh bien, il n'y a plus, c'est pas des réfugiés palestiniens, c'est des réfugiés UNRWA, apatrides. Et l'organisme n'a pas compétence, comme pour les autres, de restituer un avenir, etc., etc. Et il a compétence uniquement pour le sanitaire, le social et l'éducatif. Donc la question palestinienne, elle a juridiquement disparu.
Disparu. Voilà. Puisque,
ouais. Elle a disparu et le seul qui, pendant cette période, est correct, c'est l'Égypte de Nasser. Vu que sur le territoire de Gaza, elle dit non, ça c'est palestinien, donc je vais l'administrer et donner un coup de main, mais il n'y a jamais eu d'implantation de la loi égyptienne à Gaza. C'est la seule partie qui a été, le seul qui a été juridiquement correct. Voilà. Et la Jordanie, elle va continuer à empoisonner ce truc jusqu'à les années 70, 75, 76, et je crois finalement c'est uniquement 78 quand il y a vraiment les victoires palestiniennes à l'ONU, qu'à ce moment-là il y a une déclaration où elle dit qu'elle reconnaît qu'elle n'a pas de souveraineté sur la Cisjordanie. Mais donc ça aura quand même duré 48 à 78, 30 ans.
30 ans, 30 ans, 30 ans. D'usurpation, tout à fait.
Et la Jordanie. Et Alliance, et la Jordanie était soutenue par les grands dirigeants arabes qui ne voulaient pas trop, qui disaient on va gérer nous la question palestinienne, mais ils ne considéraient pas la Palestine comme autonome, ils ne la considéraient pas comme ayant son projet propre, et c'était une logique de je m'occupe de toi, puis je vais t'arranger quelque chose, mais reconnaître les Palestiniens en tant que peuple, pas du tout. Et bon, Arafat a été ce qu'il a été ensuite, mais quand il y a le début du Fatah, la création de l'OLP et ces questions, c'est une prise de pouvoir par Arafat et l'équipe qui est autour de lui pour imposer une vue palestinienne autonome, et que quand il y a réunion de la Ligue arabe, c'est pas les peuples arabes qui parlent des Palestiniens, mais il y a une voix palestinienne. Et ça aurait été très très difficile pour Arafat d'arriver à dégager ceux qui encombraient, notamment l'OLP, et qui étaient des dignitaires du régime, entretenus comme cela, pour conforter l'idée que le peuple palestinien, s'ayant passé à autre chose, c'était pas la peine d'y revenir parce que c'est trop compliqué. Et en fait, le peuple palestinien réapparaît, et là c'est assez fulgurant, entre 68 et 75, avec la résistance armée.
Effectivement, il a
C'est-à-dire fallu... uniquement... La résistance armée et ce qui est maintenant décrit comme les plus horribles crimes terroristes, notamment attentats de Munich, etc., etc., qui a conduit, mais de manière mécanique, il suffit de voir les événements, à ce que l'ONU devienne observateur, reconnu mouvement de libération nationale, puis un siège d'observateur à l'ONU, avec le fameux discours d'Arafat qui vient avec son rameau d'olivier, et qui dit on peut faire la paix, mais on peut faire la guerre, et on verra bien ce que ce sera. Ça, c'est en quelques années, et c'est parce qu'il y a la reprise de la lutte armée. Les événements, ils sont flagrants, c'est-à-dire que c'est pas la reprise de la lutte armée. Je dis pas que le peuple disparaissait, je n'ai pas à réécrire l'histoire, mais en attendant, l'arrivée, c'est pour ça que le droit est complètement mêlé au fait, c'est que les premières résolutions de l'ONU qui vont parler du peuple palestinien, du droit à l'autodétermination, c'est 1975 à 1978. Donc la responsabilité de l'ONU est écrasante parce qu'ils ont joué le jeu tant qu'ils pouvaient de l'élimination du peuple palestinien, comme si on peut éliminer le peuple, et puis devant la force de la résistance armée, devant des faits de guerre qui sont très très célèbres, que j'étudie également, cède sur ce plan et en 7 ans arrive à extirper des résolutions disant oui, il y a le peuple palestinien, oui, il a le droit à l'autodétermination, mais vous avez aucun mot sur entre 47 où on dit le mandataire s'en va, eh bien, il y aura immédiatement un État palestinien, un État arabe, 47, et entre les premières résolutions, 75, 77, 30 ans plus tard, disant qu'il y a peuple, eh bien, pendant 30 ans, tout l'ONU va discourir, faire ceci, faire cela, faire de l'agitation, faire de la com. Jamais dans une résolution, il y a le mot de peuple palestinien. Jamais dans une résolution, il y a le mot de droit à l'autodétermination. Donc, c'est la résistance, le calendrier est là, les événements sont là. Et ceux qui veulent me contredire, mais qui me contredisent, c'est des événements militaires et de la résistance armée et qualifiée de terroriste qui ont conduit à la reconnaissance juridique du peuple palestinien qui n'avait pas disparu, qui était toujours là, et par contre qui souffre évidemment de ces années où il est passé sous le rouleau compresseur.
Dans les conditions qu'on connaît. Oui, donc en fait, cette ONU, c'est dramatique, ça. Elle crée un État arabe ce jour-là et elle l'oublie totalement, elle le laisse disparaître. Et il faut effectivement, comme tu le dis, la lutte armée pour leur rappeler qu'il y a effectivement une population, un peuple et un État.
Il y a vraiment une conspiration contre les Palestiniens qu'il faut redire quand même, n'ont pas de responsabilité dans l'extermination des Juifs et la politique israélienne, qui se retrouvent désignés pour rentrer dans ce jeu-là, et tout d'un coup contre ce peuple de paysans qui vivait tranquillement dans un pays absolument magnifique et qui était une poursuite de la campagne du Liban, quoi, finalement, enfin, je veux dire, le pays campagnard du Liban, se retrouve projeté dans une violence que moi je qualifie d'être d'abord une violence juridique, et elle a été militaire parce qu'elle était d'abord juridique. Et cette violence juridique, c'est la responsabilité de l'ONU. Et maintenant, il y a une résolution rituelle en disant, voilà, c'est une responsabilité de l'ONU, c'est ceci. Puis qu'est-ce qu'ils en font de plus? Ben, ils versent de l'argent qui sert à corrompre les dirigeants. Et donc, on est bien dans le bazar. Et sur ce plan, il y a juste un dernier point là sur la manip grossière de l'ONU qui doit réclamer des excuses et voir comment elle peut compenser ce peuple palestinien, c'est la question du droit au retour.
Oui. Bon,
parce que le droit au retour, alors on dit, ah ben oui, là au moins l'ONU, ils ont été clairs, ils ont reconnu le droit au retour des Palestiniens, mais ils ont reconnu rien du tout. C'est-à-dire que ils avaient des personnes qui étaient sur place, qui ont constaté qu'il y a 750 000 personnes qui ont quitté leur maison parce qu'il y a des opérations militaires en cours. Bon, ben, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ces gens ont quitté leur maison, ils peuvent y rentrer. Et on dit, ah ben, ils ont reconnu le droit au retour, mais ils ne l'ont pas reconnu. Le droit au retour, il existe depuis qu'il y a des guerres. Si demain, on bombarde Lyon, a priori, je ne resterai pas à Lyon et je vais laisser ma maison pour aller je ne sais où. Ben, j'ai le droit au retour. Donc, même ce droit au retour qu'on met comme la grande victoire à l'ONU, c'est du bidon. L'ONU, le droit au retour, il dépend du droit international fondamental. Et une personne qui a quitté sa maison, elle a le droit d'y rentrer de tout le temps, de partout, toujours. Et au contraire, dire le droit au retour, mais sans parler du peuple, sans parler de la souveraineté, c'était une manière de miner ce droit au retour pour en faire quelque chose qui allait rester décoratif, vu que s'il n'y a pas la force de la souveraineté qui est reconnue par l'ONU, bah, le droit au retour, il n'y a personne qui retourne. Et là, sur ce plan également, je donne des chiffres. C'est-à-dire que l'un des arguments qui est mis en place en disant « Non, cher ami, vous êtes vraiment à côté de la plaque parce que les Palestiniens sont partis et ils étaient tellement nombreux. Nous, Israël, c'est un tout petit État. Que comment vous voulez-vous qu'on leur fasse une place ?» Au bout d'un moment, il y a un certain réalisme, voilà, en disant « Ils sont trop nombreux. » Mais sauf que, entre-temps, les donc je crois qu'on a calculé, mais c'est pas moi qui le fais, hein, c'est toutes les données, et puis elles sont logiques. Où ça ferait, quand le chiffre a été fait, ça faisait 4 millions de Palestiniens qui étaient en droit de rentrer sur le territoire. Et entre-temps, eux, ils ont accueilli 3,5 millions immigrés qui sont venus comme citoyens juifs d'Israël.
Ils ont bien trouvé les logements.
Même cet argument qui dit il n'y a pas de place, ça tient pas. Mais en tout cas, le droit au retour, c'est pas comme quand je vais te voir à Marseille et que je rentre avec mon droit au retour. C'est un droit collectif, le droit du peuple. Il est lié à la souveraineté. Et dans tous les théâtres de guerre du monde depuis le début du XXe siècle, il y a toujours une obligation première, c'est que les populations qui ont dû fuir la guerre ont le droit de rentrer chez elles, et l'ONU y reconnaît rien du tout, il n'a absolument rien donné aux Palestiniens, il n'a fait que tout ce qu'il pouvait pour briser la cohésion, il n'est pas arrivé.
Et donc ceux qu'on a mis dans la catégorie des apatrides sous la bénédiction de cette assistante sociale qui s'appelle l'UNRWA ne sont pas des apatrides, ce sont des réfugiés palestiniens.
C'est ça. Ah, c'est des Palestiniens, ça voilà. C'est sûr, c'est des.
Ça fait pas ce de doute. Des... Voilà, ça fait pas de doute.
Ce sont des Palestiniens. Alors on va me sortir l'article machin. Mais moi je sors, je prends l'histoire. C'est la différence de faire du droit ou du juridisme.
Oui, bien sûr, bien sûr. Parle-nous de Jérusalem, puisqu'il y a un chapitre important du livre sur le cas de Jérusalem qui est un peu particulier. Donc.
Ben, Jérusalem, oui, il fallait d'abord poser le terme général de la Palestine pour voir ensuite comment
bien
poser
sûr,
la
bien
question
sûr.
De Jérusalem. Vu qu'il oui, faut être factuel, oui. On est dans un procès, la CPI, elle continue d'enquêter, il y aura le procès, donc moi j'écris des choses, et je sais que toutes les erreurs qu'il peut y avoir dedans, il y a des gens qui me les mettront sous le nez, donc tout ça on vérifie.
Bien sûr.
Ben, moi je pense que pour situer Jérusalem, il faut commencer, et toujours l'histoire, hein, mais c'est mm-hmm. comme cela, par les déclarations du maire de Jérusalem, en 1898, mmh. et c'est-à-dire un an après le fameux congrès de Bâle, mmh. où le mouvement sioniste parle de créer un mouvement, un foyer national juif en Palestine. À l'époque, il n'y a pas de déclaration Balfour, la guerre de 14-18 n'a pas commencé, on en est loin, il y a encore plus de 15 ans, donc c'est une déclaration qui n'a pas intéressé grand monde parce que bon, c'est un mouvement, il y a ce projet, ensuite les Britanniques vont adorer la déclaration parce que c'est un moyen de prendre une place forte dans un monde incertain, mais on n'est pas du tout là-dessus à l'époque, c'est-à-dire c'est une déclaration qui est faite par un congrès de mouvements sionistes qui regroupe un certain nombre de personnes, et il y a une personne qui réagit dans le monde, c'est le maire de Jérusalem.
Eh oui, attendez, eh oui, bien sûr, bien sûr.
Mais lui, il est dans le journal, il dit, attendez, là, vous êtes en train de me dire, vous voulez venir ici, mais je vous signale qu'on y est. Donc, ça ne va pas marcher, votre truc. Et donc, j'ai reproduit ses textes d'époque et les courriers qu'il écrit avec la hiérarchie sioniste et les courriers qu'il écrit à un important rabbin qui était très influent en disant... venez ici, vous avez toute votre place, notre peuple est multiple, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs, les juifs sont les bienvenus, venez, mais vous ne pouvez pas créer un État parce qu'on y est, quoi, nous, c'est, voilà. Donc, l'idée que Jérusalem est une ville arabe, multi-confessionnelle, est une réalité patente. Depuis toujours. Alors quand il y aura le mandat ensuite, la discussion ici, elle commence à venir pour Jérusalem, mais il y a beaucoup de confusion dans les approches de tous les jours. C'est qu'en fait, Jérusalem, il y a la vieille ville, qui fait 1 km², ouais. Et puis il y a 60 km² d'un côté, qui est Jérusalem-Ouest, et puis 75 de l'autre, qui est Jérusalem-Est, et qui va inclure maintenant la vieille ville. Mais à l'époque, il n'y a discussion que sur la vieille ville, c'est-à-dire entre les remparts, avec les quatre religions orthodoxes, chrétiens, juifs et musulmans qui sont entremêlés, qui ont leurs habitudes, qui ont ceci, qui ont cela, et qui ont toujours partagé plus ces événements historiques. Les derniers guerriers, c'est les croisades, c'est un petit peu ancien, mais le reste, c'était paisible à Jérusalem. Et donc, quand... mais ça reste évidemment la place. Quand il y a le mandat qui se met en place, encore une fois rédigé par les puissances, il leur vient l'idée de dire on va internationaliser Jérusalem. Voilà. Bon. Alors, première observation, je rappelle, je souligne que quand ils disent on internationalise Jérusalem, ils parlent de la vieille ville, 1 km².
Mmh, oui.
C'est-à-dire que le reste est absolument pas en discussion, hein, notamment Jérusalem-Est qui pourrait devenir israélien. Il n'y a pas un mot pour l'évoquer. Quand on parle de statut international, c'est uniquement pour la vieille ville. Et il se trouve que la vieille ville n'intéressait pas du tout les dirigeants sionistes de l'époque. et elle les intéressera pas jusqu'en 1967. Il y a Ben Gurion qui avait un point de vue un peu différent parce qu'il disait Prestige, c'est quand même une bonne adresse. Mais le truc, c'était l'expression plus juste, c'était Moshe Dayan, d'ailleurs, juste avant 67. Enfin, quand l'opération militaire des 7 jours a commencé, donc il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce Vatican ?
Et oui, exactement. Oui, oui,
c'est son expression, je la donne en anglais. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce Vatican ? Mais occupez-vous d'autre chose. Et l'idée, c'est de faire une capitale à côté qui soit moderne, attractive, qui corresponde à la réalité de l'État. Mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec ce Vatican ? Donc il y a un certain consensus qui se met en place pour l'internationalisation. Mais en fait, du point de vue des puissances, il n'y a rien de sérieux qui aboutit. Là encore, je donne toutes les délibérations, tout ceci, les résolutions. C'est une administration arabe, des Palestiniens qui s'en occupent, il y a un maire, il y a ceci, il y a cela. Et puis, ce que voudraient les puissances, c'est leur prestige. C'est-à-dire que monter une opération à Jérusalem, c'est une opération de prestige. Voilà. Donc, ils ont des plans comme ça, mais il n'y a absolument rien de sérieux sur cette idée d'internationalisation de Jérusalem. Mais ça va rester un petit peu en plan. Et donc, en fait, quand il y a 48, les Palestiniens, ils ont toute la partie ouest, donc ils vont étendre la ville était déjà en dehors des murs hein, de ce côté-là.
Oui, oui.
Ben, ils vont continuer d'étendre et c'est là qu'ils mettent toutes les implantations de la nouvelle ville, Knesset, etc., etc. Mais de l'autre côté, non, c'est arabe et personne ne parle de Jérusalem Est. Donc Jérusalem à l'époque, c'est l'ouest où il commence à implanter. Et puis la petite vieille ville centrée. Voilà, c'est tout. Et ça dure jusqu'à 67. Et ça dure jusqu'à 67. Le projet de Jérusalem, mais c'est une chose dont on parle très peu.
Oui.
Très peu, il y a pas de. Et en 67, donc il y a la guerre des 6 jours. Donc je rappelle que c'était une agression arabe horrible, sauf qu'évidemment c'était l'inverse. Et ça maintenant c'est entièrement documenté. Il se trouve que il y avait effectivement beaucoup de tensions. Il y avait le monde arabe qui voulait faire quelque chose. Et le monde arabe disait, il faut que je le fasse moi-même parce qu'Arafat, avec son truc, là, il veut prendre son indépendance, il va faire des choses. Donc, le fait de l'activisme à 67, hein, j'en ai commencé à 65, hein, la lutte armée, a fait que les Arabes se bougeaient un peu. Enfin, les grandes dynasties arabes étaient vraiment pas plus sympathiques que celles de maintenant, hein, qui n'avaient jamais rien eu à faire des Palestiniens. Hein.
Non, rien de sincère.
Et ils veulent monter une opération, et puis de votre côté, voilà, il faut voir aussi qu'entre 48 et 67, c'était jamais été tranquille. Il y a eu des opérations de paix de l'ONU pour ramener, donc ça n'a jamais été tranquille. Donc il y a la tension qui a monté, et donc la Ligue arabe, elle se préoccupe de faire quelque chose, et il se trouve que la Ligue arabe va être, le gouvernement israélien va être très bien informé sur ce qui se décide à la Ligue arabe. Pourquoi ? Parce que quand il y avait les réunions plus importantes, secrètes, c'était les chefs d'État qui venaient. Donc pour le Maroc, c'était Hassan II. Et Hassan II, quand il sortait de la réunion, il donnait toutes les informations aux Israéliens.
Oui,
oui. Il y a 50 livres qui l'ont écrit. Hein. C'est
oui,
pas
oui,
moi qui
tout
le révèle.
Fait,
hein,
oui.
Je suis pas,
non, puis ça se poursuit, ces rapports très étroits.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Donc évidemment, alors après, donc ça c'était évidemment, Israël était pas mal informé pour deviner ce qu'allait faire l'ennemi, ça aide. On dit que c'était une agression arabe, sauf que les 80% de la flotte militaire d'avions égyptiennes a été abattue au sol.
Au sol, exactement.
Donc comment faire si tu es la puissance agressante pour que toute ta flotte aérienne soit abattue au sol, donc c'est bien une agression israélienne. Donc ça allait très vite, très très vite, avec effet de surprise, bon renseignement, etc., etc. Et la question se pose de Jérusalem. Et donc il y a cette fameuse phrase de Moshe Dayan qui est ministre en train de tout gagner, qui dit mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec ce Vatican ? Vous savez, on fait quoi de plus ?
Oui.
Donc il dit ça un jour, et puis le lendemain, hein, c'est minuté, je dirais c'est trop joli, quoi, voilà, c'est trop beau, donc allez tant pis, on va le prendre, hop. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, il n'y a pas eu de Nagba bis.
Non.
Parce que tous les Palestiniens étaient restés sur place. Il y en avait 70 000 à l'époque. Mm-hmm. Ils étaient tous restés parce que cette guerre, personne ne l'avait vu venir. Parce que Israël n'avait jamais dit on va récupérer, on va faire Jérusalem Ouest, capitale universelle, etc., etc. C'est jamais, 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 jamais. Les Palestiniens, jusqu'à la veille, ils disaient mais non, ça les intéresse pas, c'est pas leur truc. Et à l'époque, c'était essentiellement la vieille ville et puis des banlieues qui étaient immédiatement accrochées à la vieille ville. C'était un tout petit territoire. Et ce qui fait que les 70 000 Palestiniens sont restés, et il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus rien, il restait juste, Jérusalem était sous contrôle jordanien, vu les accords d'époque, l'armée, les soldats jordaniens ont déguerpi, il n'y a pas eu vraiment de bataille, et hop là, dans la journée, paf, ça y est, les militaires ont pris ça, ils ont fait la fête le soir, et une déclaration victorieuse, ça y est, Jérusalem, avec des magnifiques photos, etc. Bon. Et donc tous les Palestiniens sont retrouvés là-dedans, et ensuite, dans les jours qui ont suivi, Israël n'a pas pris que la vieille ville, mais il a augmenté les 70 km² sur l'Est.
Eh oui, voilà.
Donc il y a eu piégé dans cela les habitants de la vieille ville, ceux des banlieues immédiates, et puis les villages qui étaient séparés et qui sont venus protéger, vu qu'Israël ne voulait, ce qu'il voulait, c'était que Jérusalem soit protégée, c'est-à-dire que ce ne soit pas la frontière, que la frontière ait une distance, une bande de protection. Donc les Palestiniens se sont retrouvés à l'intérieur de l'État d'Israël, de puissance occupante. Voilà, donc ça c'est l'histoire de 67. Il n'y a pas eu de massacre, ça s'est fait comme cela, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a rien eu. Mmh. Il y avait des gens qui travaillaient à l'extérieur, plus ou moins loin, ils n'ont pas pu rentrer chez eux, donc ils ont perdu leur maison. Mais il y avait quand même 70 000 Palestiniens qui étaient ici. Et après, qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc, lors de la nationalité israélienne, non, ça c'était non. Il y avait ceux de 48, ça suffisait. Et puis, qu'est-ce qu'ils allaient? Bon, donc, ils ont inventé le statut de résident permanent, que j'étudie en détail dans le livre.
Oui, c'est ça.
Voilà, et donc le résident permanent, en fait, tu es sur la terre où tu es né, où tu as toujours vécu, où ta famille est là depuis toujours, et tu deviens un étranger légal, voilà,
oui, c'est ça,
avec un statut provisoire.
Voilà. Oui, c'est un statut qui existe aussi dans nos législations, résident permanent, c'est des étrangers qui, pour des raisons professionnelles
oui,
ou autres, habitent
ouais.
sur place et sont respectés voilà. en tant que tels. Oui, tout à fait.
Et donc le résident a la possibilité, quand il y a ça, de demander la citoyenneté israélienne. Donc je crois qu'il y en a 3% qui l'ont fait en 50 ans. Ouais.
Alors sur le cas de Jérusalem, puisqu'on y est, il y a une procédure qui est en cours, qui est un peu particulière puisqu'on a affaire à un cas particulier. Tu peux nous l'expliquer? Ce qui est dans la quatrième partie du livre. Oui,
c'est le problème de Jérusalem. Il faut repartir de l'arrêt du 5 février.
Oui, oui.
Alors, je vais déjà, 5 février 2021, de la CPI.
La CPI, oui.
Je vais déjà faire une première remarque, hein, c'est que je ne suis pas amoureux de la CPI. Hein, ce n'est pas la meilleure juridiction.
Non,
elle est ambiguë, elle nous a fait des coups très durs plus d'une fois. Ocampo était un homme procureur lors de la première partie des plaintes, était
oui.
un homme dont il est reconnu maintenant qu'il était foncièrement malhonnête
oui.
entre les mœurs, l'argent, ceci et cela, qu'il est bon, donc voilà, et c'est une cour qui est lourdingue. Le procureur actuel, franchement, a des attitudes et des déclarations vraiment pas au niveau. Moi je dis CPI, c'est pas parce que je suis pas émerveillé, mais
on prend le tribunal comme il est, oui, bien sûr.
C'est en pratique pour les Palestiniens.
C'est la seule. C'est la seule.
Oui, parce que tout à l'heure il y avait un peu l'idée que peut-être j'intervenais pour l'autorité palestinienne. Non, j'ai pas de procès pour l'autorité palestinienne. J'interviens pour les Palestiniens. Le cabinet a des avocats qui sont en relation avec des avocats qui sont essentiellement à Gaza, parce que en Cisjordanie et Jérusalem, ça leur est très difficile de travailler, de coopérer avec moi sur ce dossier. Donc c'est essentiellement à Gaza, où y a des équipes dans les hôpitaux, il y a une équipe particulière qui est organisée sous l'autorité du procureur général de Gaza, et ils font un service d'aide aux victimes, ils font des enquêtes, ils font ce que fait un État, vu que Gaza est très très bien organisé, vu ce qu'ils vivent, et donc ils construisent des dossiers, et actuellement on a transmis à la CPI 4000 dossiers individuels, de Palestiniens qui donnent leur carte d'identité, leur numéro de téléphone avec les éléments médicaux, avec un dossier tel qu'il serait fait en France, quoi, et peut-être tel qu'il pourrait être fait en Ukraine au lieu de faire des polémiques. Et, donc c'est des dossiers de preuves. Il y a des familles qui ont accepté des exhumations, on a fait des autopsies, on a ressorti des balles de cadavres, on fait ce travail d'enquête. Bon, et c'est ce travail d'enquête qui a finalement, je crois, beaucoup pesé, parce que un juge voit arriver 3 000 dossiers, puis 1 000 autres qui sont tenus comme cela, avec des Palestiniens qui donnent un mandat nominatif, qui disent vous pouvez me contacter, quand on les contacte, c'est eux qui répondent au téléphone. Voilà, ça c'est quelque chose qui existe. Bon, et la marche du retour, tout le monde a compris ce qui s'était passé, hein, quand il y avait des jeunes qui manifestaient le long de la frontière, ils étaient chez eux, en Palestine, et ils avaient quoi ? Ils avaient une fronde, et puis ils avaient des pneus,
oui,
auxquels ils foutaient le feu, et de l'autre côté, il y a toutes les protections, il y a ceci, il y a la surveillance informatique, ils leur tiraient dessus, et il y avait des vidéos qui montraient qu'ils faisaient un jeu, celui qui arrive à avoir le plus de genoux dans la journée, il y a eu des morts, ce dossier-là, on a pu vraiment beaucoup le travailler, parce que quand il y a des opérations de guerre, c'est beaucoup plus difficile de travailler parce qu'il y a des bombardements et ceci est tellement, mais là c'était jour après jour, dossier après dossier, donc mécaniquement on a construit tout cela, et je pense que ça a beaucoup joué. D'ailleurs la procureure l'a retenu dans les dossiers sur lesquels l'enquête était ouverte. Pour qu'il y ait enquête, il faut qu'il y ait compétence de la cour, pour qu'il y ait compétence de la cour, bien il faut sûr. Qu'il y ait un État et un territoire, voilà. Donc pour nous le schéma, c'était dire, avant de parler d'un mandat d'arrêt contre Netanyahou, d'un mandat de ceci, il faut d'abord utiliser la procédure pour arriver au débat sur l'État et le territoire. Bon. Et on arrive comme cela au procureur qui écrit en décembre 2020 en disant « J'ai tous les éléments factuels pour dire qu'il y a des crimes de guerre sur l'opération de l'été 2014, sur la marche du retour et sur la colonisation. Mais avant de me lancer dans des grandes enquêtes, il faut quand même que je vérifie, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, si la Cour est compétente, donc je vais saisir la Cour, procureur d'un côté, la Cour de l'autre, c'est pas du tout la même chose, et seule la Cour dira si effectivement la Palestine est un État et quel est ce territoire, chose qui amène donc au fameux arrêt du 5 février. Bon, et ensuite, dans les jours qui ont suivi, mois de mars, donc j'explique, je donne tous les détails de tout ça, comment la procureure a dit qu'elle ouvrait l'enquête, et comment il y a une enquête sur, notamment, la guerre de 14, de l'été 14, la marche du retour, la colonisation, et également une enquête sur les tirs faits par la résistance armée palestinienne. On aura peut-être le temps d'en dire quelques mots. Oui. Mais en tout cas, il y a le dossier de la colonisation. Bon, et là, avec tous les contacts qu'on peut avoir, eh ben, il vient à l'évidence en disant, mais attends, dans la colonisation, il y a un dossier qui va poser, on n'est pas maximaliste, les juges sont les juges, ils ont des contraintes de fonctionnement, les budgets sont pas jusque-là. Donc, avant de prendre la colonisation, surtout Jérusalem, surtout la Cisjordanie, avec un travail monstrueux, on va commencer par le plus simple.
D'accord.
Le plus simple, c'est le plus limité. Le plus limité, c'est Jérusalem. Il y a 70 kilomètres, 350 000 Palestiniens, 250 000 colons qui se sont installés. Et c'est le plus facile. Pourquoi c'est le plus facile ? Parce que la Cour, dans son arrêt du 5 février, elle dit que Jérusalem Est fait partie de la souveraineté palestinienne. Or, Israël l'a annexée. C'est-à-dire que sur la Cisjordanie, Israël n'annexe pas, même le territoire des implantations n'est pas annexé. Ils en parlent, ils disent peut-être on va l'annexer, peut-être on va le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Donc ils reconnaissent que c'est une zone occupée juridiquement.
Tout à fait.
Alors que Jérusalem, ils l'ont annexé. Donc moi je dis, on a déjà les trois quarts du procès qui sont faits, parce que la Cour, dans un arrêt pour lequel il n'y a pas eu d'appel, dit que Jérusalem-Est fait partie de la souveraineté palestinienne et qu'à ce titre, la Cour a la compétence sur le territoire, donc c'est jugé. La contradiction entre l'annexion et la compétence de la Cour, elle est absolument flagrante, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels les Palestiniens peuvent s'appuyer sur des résolutions du Conseil de sécurité. Sauf que sur le Conseil de sécurité, lui qui a tous les théâtres de guerre du monde, il y a des choses qu'il ne peut pas dire l'inverse. Et donc le Conseil de sécurité a dit que l'annexion de Jérusalem et la déclaration de Jérusalem comme capitale sont nuls et de nul effet. C'est-à-dire que les Palestiniens peuvent s'appuyer sur l'arrêt du 5 février, ils peuvent en plus s'appuyer sur les propres résolutions du Conseil de sécurité. Donc on a une situation qui est extrêmement favorable, et parce que limitée géographiquement, toutes les données, je le diffuse dans le livre, les plans d'urbanisme qu'il y a eu, comment s'est faite l'implantation, comment ils créent les ceintures de colonies pour faire ceci, tout ça, ça y est. Mais à partir de l'équation juridique de base, à savoir que le territoire est annexé par Israël qui le considère chez lui, qui applique la loi, qui considère les Palestiniens comme des étrangers légaux, qui a dissous, à l'époque il y avait un conseil municipal, des choses comme ça, a tout dissous pour les remplacer, là encore je donne toutes les références, il a mis son administration, ses lois et tout, mis, donc il dit chez moi c'est annexé, et la Cour dit non, tu ne peux pas l'annexer, c'est un territoire souverain palestinien. Le premier procès sera celui-là, actuellement, je sais qu'il y a des grands débats dans le mouvement en Palestine, on verra à quelle vitesse les choses se font, mais il y a eu parfois la tentation d'enfermer Jérusalem-Est pour les habitants de Jérusalem-Est. C'est quelque chose qui est, par exemple, quand il est cherché à là, ou ce genre de choses, on a discuté, nous, avec les avocats, qui sont les confrères avocats de Jérusalem-Est, qui sont des citoyens, qui sont barreaux d'Israël, parce qu'ils vivent dans les territoires de 48 de Jérusalem, ils n'ont pas une marge de manœuvre qui est extraordinaire, discuter avec eux, et eux, ils sont vraiment dans l'œil du cyclone, vu que en Cisjordanie, à Jénine ou compagnie ou à Gaza, c'est difficile, mais quand même, tu as l'air palestinien, c'est l'air, l'ambiance, je veux dire, ces zones, Israël n'a pas annexé, là-bas, ils ont annexé, donc c'est beaucoup plus difficile de leur demander de faire des efforts, parce que ils en font énormément, mais je vois pas comment un avocat irait soutenir nos argumentaires et pouvoir rester au barreau, faut être sérieux, donc c'est pas le moment de les fragiliser, donc ça c'est une chose, et puis après, il faut raisonner. Qui c'est qui est victime de l'annexion de Jérusalem ? Est-ce oui les habitants, ça c'est sûr. Oui. Parce qu'on les a mis en étranger chez eux, ils ont des règles d'urbanisme qui sont vraiment de l'apartheid, là pour le coup, il y a toutes sortes de choses. Ensuite, il y a ceux qui ont été expulsés, vu qu'au total, il y a à peu près 15 000 Palestiniens qui étaient des Palestiniens de Jérusalem qui ont été expulsés. Israël n'a pas le droit d'être expulsé, ils ne peuvent plus rentrer chez eux, donc ceux-là, ils sont victimes aussi. Mais surtout, il y a les 12 millions de Palestiniens.
Eh oui.
Parce que Jérusalem est la capitale de la Palestine et abrite les lieux saints. Donc, admettons que tu ne puisses plus aller, qu'on ne puisse plus accéder à Paris, tu es de Marseille, je suis de Lyon, mais on serait bien, en tant que Français, victime de l'annexion de Paris, vu qu'on perdrait la capitale, on ne peut plus y aller. Et en plus, quand dans cette capitale, il y a les lieux saints qui comptent tant pour les musulmans et les chrétiens. Donc, c'est l'ensemble du peuple qui est victime de l'annexion, vu que c'est l'annexion de la capitale et qui abrite de plus les lieux saints. Donc, La procédure est à la fois la plus simple, elle est déjà largement jugée par la Cour qui a dit que Jérusalem-Est est de la souveraineté palestinienne. Elle a l'appui du Conseil de sécurité, plus de 50 000 résolutions de la Croix-Rouge, de l'ONU, de l'UNESCO, des rapporteurs spéciaux, de ceux-ci qui a tous dit que l'annexion de Jérusalem est contraire au droit international, qu'on peut acquérir aucun territoire par la force armée, etc., etc., etc. Et le principe de non-acquisition de territoire par la force armée, je l'étudie, je le détaille également dans le livre. Tout ça, c'est complètement clair. Et ensuite, massivement, on n'est plus obligé obligé de fragiliser les gens qui habitent là-bas en disant mettez-vous en avant et présentez-vous comme victime, parce que ça serait une vision complètement restrictive et fausse. L'annexion de la capitale palestinienne pose un préjudice à l'ensemble des Palestiniens, donc l'ensemble des Palestiniens qui sont recevables.
Tout à fait. Ce qui justifie totalement le titre de ton livre, hein, Jérusalem-Est sous la protection, puisqu'en fait, tu as le cas le plus central et le plus criant et le plus facile à plaider, finalement.
Absolument, absolument, absolument. Et je rappelle encore que pour la cinquième fois que personne n'a fait appel de la décision du 5 février. Donc c'est une décision qui est complètement fortiche, renforcée tous les jours. Et le débat, la question se pose. Bon, on voit des arguments israéliens qui commencent à arriver à la CPI. On sait qu'il y a des influences, qu'il y a des gens dans les couloirs qui amènent les documents et tout ceci, tout cela. On verra bien, on verra bien. Les relations ont toujours été difficiles avec les procureurs. Bon, c'est pas un métier facile non plus. Mm-hmm. Mais les décisions de justice qui ont été rendues, vu que nous, il faut vraiment distinguer le procureur et les juges. Franchement, elles sont toutes, globalement, elles sont d'un excellent niveau et c'est long, c'est compliqué, mais il y a des fois des choses un peu inutilement complexes, mais les bases sont vraiment dans la grande lignée.
Très solide.
Et la jurisprudence elle est solide. Donc il faut garder le cap et poser le débat ici. Et en revanche, une fois que la Cour a ouvert l'enquête, il y a eu des déclarations très fortes là, aux États-Unis où ils ont interdictions de déplacement pour Madame Bensouda, la procureure. Et,
oui, ils ont très
Oui, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est des voyous là-bas. C'est... Et puis des déclarations que j'ai toutes citées des dirigeants israéliens, même de ceux qu'on qualifie de gauche modérée, sympathique, etc., qui sont tous, ouais, c'est une cour antisémite, donc on n'a plus le droit d'habiter chez nous, donc ceci, donc cela, donc cela, donc la cour, on la méprise et ils comprennent rien, il n'y a que nous, ok, d'accord, vous êtes un État souverain, donc moi, j'ai pas deux argumentaires, un État souverain, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, si l'État souverain, il veut se défendre dans le procès, il faudra en accepter les règles.
Exactement.
Donc, si vous voulez participer au procès, si vous voulez venir accuser la résistance armée, si vous voulez prendre un rôle de parti au procès, moi je le souhaite, vu que le propre du juridique, c'est de débattre avec les mêmes règles devant des juges qu'on contrôle absolument pas et rien n'est gagné d'avance. Mais par contre, il faut accepter les règles et donc il va falloir accepter l'arrêt du 5 février. Donc soit Israël et la défense israélienne et l'armée israélienne et les avocats israéliens acceptent finalement la décision du 5 février disant la Palestine est un État, elle n'est plus enfermée dans une négociation bilatérale avec nous comme si on avait tout qu'on peut leur donner vu qu'elle a son existence propre. Et deuxièmement, elle a des territoires souverains dont Jérusalem Est, et bien à ce moment-là, il y aura un procès. Argument contre argument, il y a eu des procès internationaux compliqués, donc j'en ferai un de plus. Mais s'ils n'acceptent pas ça, tout ce qu'ils donnent, ce sont des ça vaut pas plus qu'un article de presse factuel.
Tout à fait.
C'est pas du juridique. Voilà, ça rentre pas dans le procès. Si un employeur et un salarié, ils seront d'accord sur rien, mais ils sont d'accord sur le fait qu'il faut appliquer le code du travail.
Voilà. Et là,
après,
donc,
le code du travail, on l'interprète de telle ou telle manière.
Bien sûr.
Mais là, il y a un statut, il y a un arrêt qui dit l'enquête est ouverte dans ce cadre-là. Ben, soit tu acceptes le cadre et la discussion, elle est la bienvenue. Si tu acceptes le PACA, tout ce que tu nous donnes, c'est plus du juridique international. C'est quelque chose d'un État souverain, mais ça ne rentre plus dans le droit international. Donc le choix israélien qui a été de blacklister complètement à la CPI, de l'injurier, de la traiter d'antisémite, et ceci et cela, me paraît être, m'énerve pas sur les propos qui sont tenus, mais fondamentalement, c'est vraiment une erreur, celle-là qu'on peut qualifier d'historique.
Historique. Souhaitons que, effectivement, tout ça va prendre du temps, mais ça avance dans la bonne direction. Il s'agit bien d'un procès international, il s'agit de juger l'État d'Israël en tant que criminel de guerre contre un peuple souverain. C'est bien ça qui est en jeu, et c'est ça. Enfin, c'est à cet édifice que tu apportes une très très grosse pierre, et on t'en remercie beaucoup, beaucoup. Gilles, ton livre est en librairie dans quelques jours, je pense.
Oui. Je crois que c'est la distribution... Il y a une dizaine de jours, je pense.
Ah, c'est très bien.
Et je crois qu'il y a les sites qui commencent à le diffuser.
Très bien.
Non, l'éditeur a fait un effort parce que c'est franchement, il a fait un joli livre. Le format est pas très très grand, donc on le tient bien en main. Il se déplie quand il s'ouvre là comme une fleur, ça c'est impeccable. Enfin, ça tient bien la reliure et tout ça. Il y a 600 pages, il l'a mis en vente à 25 euros. Et franchement, il a fait un effort absolument de tous les côtés. Donc moi, je suis très reconnaissant.
Ce qui n'est rien côté des efforts que tu as fait toi-même, dont on te fait ces grands grès. Voilà, c'est un gros travail. Merci beaucoup, Gilles. Et on va finir par quelques mesures de Chopin pour te faire plaisir. Voilà, que j'ai choisi. Alors, je n'ai pas choisi le morceau dont tu m'avais parlé, mais un autre qui m'est cher et que tu vas reconnaître si tu es amateur de Chopin. Et puis après tout, quand on entend des pianistes russes, on se dit qu'après tout, ils ont bien le droit de vivre et de s'exprimer.
On compte sur eux, ouais, c'est sûr.
Merci beaucoup, Gilles. Allez. À très bientôt.
Merci à tous. Allez, au revoir.
Au revoir. Donc ça s'appelle La Fantaisie impromptue de Frédéric Chopin. C'est joué par Anastasia Upman, qui est une pianiste jeune d'origine russe, mais qui vit aujourd'hui en Autriche. Et je voulais donc remercier Gilles, remercier Sidi, qui a passé la soirée avec nous, et puis rappeler que l'émission sera rediffusée samedi prochain, donc le 16 à 14h05, et que vous pourrez par ailleurs la retrouver sur les podcasts de Radio Galère, comme toutes nos émissions. Merci de votre écoute. Le livre de Gilles mérite d'être lu parce que vous avez compris qu'il est à la fois dans les faits de l'histoire, il tient compte du fait que la lutte armée, ça débouche sur quelque chose qui n'est pas simplement du sang versé, c'est simplement, ça fait avancer des droits qui ont été bafoués, et à partir de ce moment-là, on peut effectivement reconstruire un autre avenir. C'est une réflexion qui a du sens parce que aucun peuple ne va à la lutte armée s'il n'est pas pris dans un besoin, s'il n'est pas dans une situation qu'on lui a rendue insupportable. Personne ne va au combat pour le plaisir, sauf les mercenaires. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit quand on parle de la Palestine. Il s'agit de faire respecter un droit historique et de faire respecter le droit de vivre sur sa terre. C'est ça qui est en jeu, c'est ce travail auquel Gilles contribue, on la remercie. Et puis on remercie Radio Galère d'être toujours là pour qu'on puisse exprimer ces points de vue-là. Merci encore Sidi, bonne soirée à tous.
Le temps des cerises et guérossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le maire le moquait.